La revue de presse. Bonjour Claude Eskolovitch.
Bonjour.
On parle d'une salle de sport.
Le Basic Fit à Montpellier, où un soir, après la douche, un homme légionnaire roumain balèze éponge avec sa serviette ses parties intimes quand trois jeunes gens lui disent que ça ne se fait pas d'être tout nu dans un vestiaire. Est-ce que lui lui ont dit gentiment, comme il le prétend au tribunal, ou bien de manière plus crue, comme le disent des témoins, « Pourquoi tu te touches devant nous, tu veux qu'on te suce ?» Et lui a-t-il été présomptueux en rétorquant « Non, je préfère vous enculer ». Bref, quand l'homme remettait ses chaussettes, les trois autres lui sont tombés dessus et ont conclu le lynchage de deux coups d'extincteur sur le crâne. Dans le compte-rendu du procès que fait Midi Libre, j'apprends qu'un avocat de la défense a expliqué que cette bagarre avait du sens puisqu'elle opposait trois maghrébins à un légionnaire des pays de l'Est. À Mimizan, mardi dernier, là nous sommes dans Sud-Ouest. C'est au nom de l'identité du Sud qu'une bande menée par un crâne rasé sous alcool et cannabis a demandé à deux jeunes gens qui arrivaient du Nord si l'on disait « pain au chocolat ou chocolatine ». Ils ont répondu « pain au chocolat ». Ils ont payé fracture de la mâchoire et enfoncement du crâne. Mais faut-il donner du sens à l'imbécilité d'un récidiviste des substances et de la baston ? Reste que la peur pèse sur nos âmes quand la violence et l'insécurité s'invitent aux unes de Presse Océan, du Progrès, de Midi Libre et sur la couverture du Point. Sujet incontournable donc dans la présidentielle. Les reportages sont durs et en même temps nuancés. Je lis dans le Progrès qu'une quinquagénaire de la métropole de Lyon filme les trafiquants de la cité et renseigne la police pour que cela s'arrête. Mais dans le Point, qui est allé à Brest, je rencontre Marie-Madeleine et Jean, 88 et 85 ans, qui un jour ont vu tomber sur leur balcon un sac de sport qui contenait 3 kilos de cannabis. C'était une erreur d'expédition dans ce quartier de Pont-à-Nézène où le trafic prospère, mais enfin ça a toujours été le cas. Et en dépit d'un cambriolage et de leur voiture esquintée 5 fois, nos retraités trouvent le quartier agréable, faut pas noircir le tableau. Dans le Figaro, on apprend que la vidéosurveillance coûte à Paris 500 millions par an et néglige les grands arrondissements où la violence menace les personnes pour protéger plutôt les chics boutiques du centre et des Champs-Élysées. À Estrebeuf, dans la Somme, on compte, me dit encore le Figaro, 13 caméras pour 250 habitants. Mais comprenez, la commune est très étendue et puis l'été, il y a les touristes, il y a le camping.
Et on parle d'une autre violence.
Et le Figaro encore nous raconte un septuagénaire, Omar Assad, qui revenait de jouer aux cartes avec des amis quand son destin a basculé en croisant une patrouille. Il a été malmené, puis abandonné à même le sol. Il est mort d'une crise cardiaque. C'est arrivé en Palestine, en Cisjordanie. La patrouille appartenait à une unité de l'armée israélienne, désormais sur la sellette, qui s'appelle Netza Yehuda. Elle a été créée pour accueillir les jeunes ultra-orthodoxes qui s'éloignent de l'étude biblique pour prendre les armes et qui retrouvent dans le bataillon des religieux, ceux-là ultra-nationalistes messianistes. Alors ces jeunes gens en rupture de repère tournent violents, racistes, comme tous les perdus, identitaristes, intégristes que nous connaissons. Omar Assad avait vécu aux États-Unis avant de revenir au pays, et c'est aussi parce qu'il était américain que sa mort a fait un tollé. Que croyez-vous ? En France, on nous raconte des tribulations du milliardaire breton. Mediapart s'en prend au géant du luxe Kering, apanage de la famille Pinault, qui aurait subi un redressement d'au moins 210 millions pour solder des affaires d'évasion fiscale, mais qui en fait aurait bénéficié d'un traitement de faveur. Les Échos, Libération, Le Monde, Le Figaro, le site de Ouest-France accompagnent la fête que donne aujourd'hui Vincent Bolloré à Ergué-Gabéric, Finistère, où en 1822 sa famille se lança dans l'industrie papetière. Il y aura une messe à la chapelle de Kerdévaux, un repas au manoir, l'achèvement peut-être de la passation de pouvoir à son fils Cyril, dont les Échos troussent un portrait si lisse, en est-il le reflet ? On trouve dans nos journaux les trois angles usuels des portraits de Bolloré, le folklore intime de la foi catholique bretonne, l'angle du bâtisseur d'empire, et puis l'inquiétude que l'homme inspire. C'est le Figaro qui ce matin raconte l'angoisse des écrivains face à la fusion Édith et Sachette que le vieux milliardaire veut mener à bien personnellement, car on comprend aussi qu'il ne va pas vraiment partir. Libération et Le Monde, qui cite un bon livre sur Bolloré, « L'homme qui inquiète » de Vincent Beaufils, m'apprennent qu'il est entre autres qualités un menteur, et qu'il a appris de son mentor, feu le banquier Antoine Bernheim, à prendre d'assaut les entreprises qu'il guette en étudiant la généalogie, les failles familiales de ceux qu'il veut déposséder. Est-ce que quelqu'un regarde aujourd'hui l'arbre de généalogique des Bolloré ?
Et on parle enfin de colère, Claude.
Dans Libération, et c'est de la philo, où j'apprends que ce sentiment honni par le christianisme avait de la valeur dans les tragédies grecques et pourrait être utile à la vie de la cité. Dans l'Humanité, une chouette écrivaine, Julia Deck, qui brosse nos comédies et qui, dans son dernier ouvrage, Monument National, dit les 70 ans cloîtrés d'un grand acteur encerclé par des gilets jaunes. Julia Deck, donc, nous dit qu'elle transforme la colère en ironie. Il en faut. Dans le monde sublime, nous attend Jean-Jacques Chou, l'écrivain lui aussi, mais à son rythme. Il sort maintenant son 6e livre en 50 ans. Il écrit à la main, fax à Gallimard, contemple la vie dans le 7e arrondissement de Paris, où il voit de sa baie vitrée le parc de la résidence de l'ambassadeur de Russie. Il dit que la vie n'est pas réservée à ceux qui s'agitent. En mai 68, il dînait avec Godard en pleine révolution, mais lui trouvait que les bottes des gendarmes mobiles ressemblaient aux bottines des Londoniens de Levant. Il est classique, fétichiste, éternel. Dans Le Parisien, qui supplie « Ne nous quitte pas », je lis que les buts de Kylian Mbappé sont-elles les tableaux de Monet à l'Orangerie. Ça, c'est impressionniste, mais c'est vrai.
Merci Claude Askolovitch pour cette revue de presse.